cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodat le 9 mars 1988.
Pourriez-vous nous situer le situs par rapport à la qualité, ce qui lui apporte, ce qui lui est propre? Le situs est un prédicament particulier lié à la quantité. C'est pour ça que pour bien comprendre le situs, il faut regarder la quantité. Évidemment, le situs est assez proche de la figura. Comme la figura est une qualité de la quantité, il y a quelque chose d'assez proche entre figura et situs. Je crois que la figura implique un situs, mais n'est pas le situs. La figura a quelque chose de plus synthétique. Ce que la qualité peut faire, la qualité a quelque chose qui unifie, tandis que la quantité, comme nous le verrons, n'unifie pas. Elle met au contraire une diversité à côté d'une autre diversité. Elle étend. Alors le situs, c'est la situation d'une partie dans le tout. Tandis que la figura regarde l'ensemble, un tout, qui a une figura, qui a une manière d'être. Alors, cette réalité qui a sa figura peut faire partie d'un autre tout. Chacun d'entre vous, vous avez votre figura. Dans une communauté, quand on fait partie d'une communauté, on a son situs par rapport à la communauté. Parce que vous ne pouvez pas être dans le même lieu que le voisin. C'est distinct. Ça s'additionne. Il y a le poids qui s'additionne, à tout point de vue, qui fait qu'une communauté est plus ou moins lourde selon la quantité. Ça se voit dans les transports. Alors c'est évident qu'il y a un poids. Il y a une quantité qui s'additionne. La figura n'enlève pas le poids, n'enlève pas l'extériorité. Mais la figura est autre chose. Elle exprime certaines manières d'être qui impliquent que toutes les parties sont comme synthétisées dans quelque chose d'un. C'est le problème de la physionomie. Toute physionomie, toute figura a des parties. Mais la figura, c'est l'ensemble de ses parties exprimant l'individu, la substance individuelle. C'est pour ça que la figura est très précieuse pour connaître ce qu'est la nature. Regardez la figura d'une feuille. Avec la figura d'une feuille, vous reconnaissez tout de suite. Cette feuille, c'est la feuille d'un chêne, d'un peuplier, tout de suite. Quand vous regardez la figura d'un chien, ah, et telle race, oh, ce qui est extraordinaire, ce chien, j'en ai jamais vu comme ça. Il y a une figura très étonnante. Vous voyez, la figura manifeste, dans une certaine unité, tout un ensemble de qualité et de quantité, comme un tout. Mais ce tout, restant quantitatif, peut devenir la partie d'un autre tout. Le grand tout, c'est l'univers. C'est bien évident. Et que par rapport à l'univers, chaque tout individuel est situé. Nous sommes situés par l'ensemble, pour l'ensemble de l'univers, sur cette petite planète. Si nous habitions la Lune, nous aurions un autre situs. Notre figura pourrait très bien ne pas être changée. Mais notre situs serait changé. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose de particulier du situs qui n'est pas la figura et qui pourtant peut, d'une certaine manière, l'impliquer. C'est dans ce sens-là qu'il y a vraiment une catégorie spéciale du situs, qui n'est pas la qualité. C'est la référence au tout. Alors que la qualité n'est pas la référence au tout. La qualité a quelque chose d'indivisible, donc d'absolu. Alors avant de quitter la qualité, on m'a demandé de refaire une synthèse de la qualité. C'est-à-dire de redire ce que nous avons déjà dit. Je comprends très bien, c'est très difficile de saisir la qualité. Parce que elle touche des extrêmes. L'habitude de sagesse. C'est pas si commode que ça de comprendre. Et la figura. C'est plus facile de la comprendre. Parce que nous avons tous une figura, nous n'avons pas tous l'habitude de sagesse. Nous y tendons, c'est déjà quelque chose. Mais nous avons tous une figura. Un gosse a une figura. Très jolie, très belle. Pas encore abîmée. Un vieillard. Toutes les vieilles grand-mères de nos fils, elles ont leur figura. Et il est passé beaucoup d'eau, beaucoup de pleurs, qui a fait l'érosion. Il y a l'érosion sur la figure. Et sur un enfant, ce qui est admirable, c'est qu'il n'y a pas d'érosion. Il n'y a pas eu. Il y a encore quelque chose qui jaillit. Alors, toute la différence entre la figura et l'habitus. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est au point de vue de l'être. Quand vous saisissez la qualité, est-ce que vous saisissez l'être ? Je vous ai dit, je crois que la philosophie de Heidegger ne dépasse pas la qualité. C'est sévère comme jugement. Je crois. Je crois que ce qu'il appelle l'être, c'est pratiquement la qualité. C'est la présence. On est présent à quelqu'un par la qualité, je vous ai dit. Quelqu'un qui a de grandes qualités est présent. Quelqu'un qui n'est que quantitatif, il est anonyme. Il y a des êtres présents, il y a des êtres qui sont anonymes. Ils disparaissent dans la masse. Un de plus, un de moins, ça ne se voit pas beaucoup au régiment. Tandis que quelquefois, un seul donne toute l'âme et fait que tout est présent. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité par rapport à l'être ? Nous avons saisi exprès la substance avant. Nous ne sommes pas arrêtés à la qualité. Parce qu'on sait que la qualité, on s'y arrête très facilement. C'est beaucoup plus facile, c'est descriptif, vous comprenez ? C'est descriptif, quelquefois ça va plus loin. L'habitude de sagesse, c'est plus qu'un aspect descriptif. Ça implique une certaine saisie à travers nos activités de contemplation pour saisir ce qui est à la source de ça. Donc, on fait plus que décrire. Mais la figura, ça se décrit. Là, vous voyez cette chose très curieuse. On est avec l'habitus. Je veux dire, on est avec la qualité, on est avec l'être qui se manifeste. C'est ça la première chose que je vous ai dite. La qualité, c'est l'être qui se manifeste. Tandis que la substance ne se manifeste pas. Elle est la déesse qui demeure à la maison. Ousia, Estia. La substance, on la découvre. Personne n'a vu la substance. Si vous me prétendez l'avoir vue, je dirais, il y a des chances que ce soit pas ça. La substance, vous la décelez, vous la dévoilez, vous la saisissez par l'intelligence, comme une source, comme un principe dans l'ordre de l'être, un principe de toutes les déterminations, un principe selon la forme, fameuse, affirmation d'Aristote qui est très forte. C'est pas parce qu'Aristote le dit que je la maintiens, Et j'ai essayé de la remplacer par autre chose, je vois pas. C'est la substance c'est la cause, selon la forme de ce qui est. Elle est principe, selon la forme, dans la ligne de la forme. Et elle est principe de ce qui est. Seule l'intelligence peut saisir ça, puisque seule l'intelligence saisit l'arché, le principe, la cause. Et c'est l'induction qui nous y mène. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que la substance, j'ai dit, mon âme est une substance. Alors, vous voyez, l'avantage de l'âme, c'est que vous avez une connaissance affective de l'âme. C'est-à-dire que vous n'avez pas une connaissance affective de la substance. Même si vous l'aimez beaucoup, vous n'avez pas de connaissance affective de la substance. Vous avez une connaissance affective de l'âme. Et c'est pour ça que pour mieux comprendre ce que c'est que la substance, on regarde l'âme. Mais on ne s'y arrête pas. On n'identifie pas les deux. Parce que l'âme est source d'opération vitale. Et la substance est source de toutes les déterminations. Donc elle est quelque chose de plus radical. Je crois que c'est toujours comme ça qu'on doit essayer de regarder. Puisque la substance est source, selon la forme, de ce qui est, toutes les qualités vont manifester la substance. Toutes les qualités proviennent radicalement de la substance. Comme toutes les opérations vitales proviennent radicalement de l'âme. L'âme, elle se manifeste à moi quand je prends mon petit déjeuner. Quelle belle âme. Elle a faim. Je la nourris. C'est vrai. Vous écoutez le cri de l'âme qui dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et quelquefois pendant le cours. Vous écoutez le cri de l'âme. C'est l'âme qui crie j'ai faim. C'est votre âme. Votre âme de petit lapin. J'ai faim des petites carottes. Oui. J'ai faim du pain. J'ai faim du beurre, ça dépend. J'ai faim du miel. C'est l'âme qui crie. L'âme crie par ses appétits. Je connais, j'aime, c'est mon âme. Présente dans mes passions. Je pense, c'est mon âme. Vous voyez, mon âme est présente dans toutes mes opérations vitales. Et si je suis un grand vivant, mon âme est présente dans toutes ces opérations vitales, jusqu'à la contemplation. Votre âme est plus éveillée quand vous faites oraison que quand vous allez au réfectoire. Du moins, j'espère. Quand vous faites oraison, c'est la fine pointe de votre âme qui est éveillée. C'est votre âme. Quand vous allez au réfectoire, heureusement qu'entre deux, il y a un cours de métaphysique pour vous rappeler qu'il n'y a pas de continuité. Alors à ce moment-là, c'est votre âme qui dit, oui, votre âme végétative, animale. C'est vrai, on se précipite deux fois, de temps en temps, sur la nourriture comme un petit animal. Si on n'avait pas la conscience qu'on est un religieux, on se jetterait là-dessus en disant « Heureusement qu'il y a la présence des autres qui m'empêche. Mais quand je suis seul, poulala. » L'animal renaît, il est timide, l'animal. Alors quand il y en a d'autres espèces à côté de lui, l'animal se tait. Et c'est vrai, il faut reconnaître ces choses-là. L'animal est générique. C'est pour ça qu'il est si puissant. Mon âme est présente dans toutes mes opérations vitales. La substance est présente dans toutes mes qualités. Il n'y a pas de distance entre la substance et l'habitude de sagesse. Il n'y a pas de distance entre la substance et la figura. Je distingue philosophiquement, métaphysiquement, je distingue la substance source et la manifestation de cette source. L'apparence de cette source. La manifestation. C'est pas la même chose. Et pourtant, c'est la même chose. Parce que s'il n'y avait pas la substance, il n'y aurait pas la manifestation. La mort supprime, sépare l'âme du corps. La mort sépare la substance des accidents. Une sacrée révolution, ça. Sépare la source de toutes les manifestations. Et qu'est-ce que vous apercevez? C'est qu'alors, ça se dégrade très vite. Il y a un moment. Puis après, c'est pour ça que où on momifie pour que ça reste fixé. Alors momifier, vous voyez, c'est l'art qui remplace la substance. Et qui veut fixer la beauté d'un visage. Les lignes d'un visage. Regardez comme les Égyptiens l'ont fait admirablement. Momifier quelqu'un. Tu es si admirable qu'il ne faut pas que ton visage disparaisse de l'univers. Ou bien au contraire, on cache, on enterre, pour qu'on ne voit plus la destruction. Pourquoi il y a destruction? Il n'y a plus de source. Vous avez coupé la source. Vous l'avez coupé, c'est pas vous. Vous avez constaté qu'il y avait une brisure. La mort est une brisure, métaphysiquement, entre la substance et les accidents, entre la substance et les qualités. Alors là, vous êtes bien obligé de constater qu'avec la mort, il y a une anarchie. Et si vous étiez très attentif, vous verriez quelles sont les qualités premières qui disparaissent. Quelles sont les qualités qui disparaissent ? Quelles sont les qualités qui demeurent ? Quand quelqu'un est mort, hein, l'habitus de sagesse, cherchez-le. Il a disparu. On ne sait pas où. Invisible. L'intelligence. Disparu. Il répond plus. Il y a une coupure. Il y a une absence. Vous voyez, l'âme, la substance, réalise une présence. Pas elle directement, mais par les qualités. Avec les qualités. Or, de fait, Heidegger, qui s'oppose à Husserl, qui s'oppose d'une certaine manière à Husserl, garde cependant la méthode phénoménologique de Hegel. Ça a été trop marqué par Hegel. Donc, il n'arrive pas à faire le discernement et la distinction que nous faisons entre substance et qualité. La substance est liée à la manifestation dans son exercice. Et c'est pour ça que la substance est une présence. Quand vous dites que la substance est une présence, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que l'être, dans ce qu'il a de plus lui-même, se manifeste. Il est présent. Mais c'est pas la substance. C'est l'existence de telle substance liée à telle ou telle qualité. C'est pour ça qu'il est présent. Et quand on est mort, on n'est plus présent. C'est la première constatation que vous faites de la mort. C'est la plus pénible. Il n'est plus là. Et vous le dites spontanément, il n'est plus là. Il ne répond plus. Il est mort. Les qualités extérieures sont restées. La figura est restée. Momentanément. Mais la source a disparu. Et c'est pour ça que ça ne va pas rester longtemps. Oui, ça vous aide peut-être, par la négation, de comprendre mieux ce que c'est que la qualité. La qualité est donc premièrement manifestation de la substance. Les manifestations, aujourd'hui on sait ce que c'est. Vous voyez, on ne vit plus au niveau de la substance, on vit au niveau des manifestations. Parce que l'audiovisuel enregistre mieux les manifestations que la substance. L'audiovisuel, c'est difficile, vous savez, de faire comprendre ce que c'est que la substance. C'est comme l'a dit dans le poème de Parménide. Là s'arrêtent les manifestations. Et vous avez le silence de la substance. L'indivisible de la substance. Mais la substance telle qu'elle existe, elle existe toujours avec des qualités. Donc, la première chose que je dénote dans la qualité, c'est manifester la substance dans le monde physique. Et la figura joue un rôle capital. C'est pour ça que c'est si important de regarder la figura pour comprendre dans l'ordre génétique, ce qu'est la substance en premier lieu. Mais la substance, elle manifeste. Pourquoi ? Parce qu'elle détermine. Je veux dire, la qualité, elle manifeste. Pourquoi ? Parce qu'elle détermine. Voilà la piste que je prends. Toute qualité détermine. Vous avez donc des qualités visibles et des qualités invisibles. Vous avez donc des qualités qui manifestent et des qualités qui ennoblissent. Les qualités invisibles ennoblissent. Donnent une physionomie intérieure à un être. C'est un sabre. C'est un sage, il a une barbe blanche. Hein ? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des barbes blanches et qui ne sont pas des sages. Et tous ceux qui avaient des barbes blanches étaient des sages, on se ferait teindre la barbe pour être des sages. Non, c'est un petit signe, c'est tout, pas plus. Il y a des qualités invisibles. Alors je vois que la qualité ennoblit, manifeste, ennoblit, que la qualité répugne à l'indétermination. Et c'est dans ce sens-là qu'elle ennoblit. Et là, je comprends ce que c'est qu'un habitus. L'habitus vient déterminer toutes les virtualités de la puissance. Une puissance a un champ d'action extraordinaire. L'habitus vient rassembler toutes les virtualités d'une puissance dans un sens pour permettre le combat et la victoire. Mon intelligence peut aller dans tous les sens. Je reçois tous les matins, à titre d'information, 10 journaux. Je les lis. Pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. Hein. Je me disperse, je crois. Sauf si c'est mon métier de me disperser, ça c'est autre chose. Il y a des diplômes de dispersion. Alors, c'est contraire à Plotin, ça, mais ça peut exister. Il y a des gens qui ne savent tout. C'était Montesquieu qui disait déjà ça. Des gens qui sont informés de tout et qui ne comprennent rien. Oui, c'est une espèce d'accumulation. C'est pas l'habitus, ça. C'est l'inverse. C'est peut-être une méthode. Une méthode, parce que dans la méthode, vous avez relevé les 10 journaux importants à lire, et vous les lisez. Et vous les comparez. Puis avec ça, vous faites une bouillabaisse. Vous avez un article nouveau. C'est ce que disait à Fribourg, un des professeurs de philosophie. Réunir 10 livres sur un sujet donné, ça fait une thèse. Réunir 100 livres sur un sujet donné, c'est génial. Et c'est la bouillabaisse. Ça se fait très bien à Marseille, ça, la bouillabaisse. Hein. C'est une chose particulière. Mais intellectuellement, c'est plus difficile. C'est très important de comprendre la différence entre la méthode et l'habitus. La méthode est de l'ordre d'extension. Et l'habitus est de l'ordre qualitatif. Et donc ramène toujours à l'unité. Je peux très bien être obligé de lire 10 journaux par jour, si c'est mon métier. Mais si j'ai un habitus philosophique, un habitus de sagesse, je ramènerai cette extension à une unité qualitative. Où est la vérité ? et je chercherai à comprendre la vérité. Et quelquefois, quand je prends exprès des journaux politiquement de droite et de gauche, politiquement du centre, j'essaie petit à petit de me faire une idée. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que le centre? Par rapport, vous voyez, alors là, c'est tout à fait différent. Ce n'est plus uniquement une information. C'est qualitativement juger, estimer, comprendre. Alors l'habitus ramène la diversité à l'unité. C'est ce que fait l'habitus. En pénétrant plus avant dans la nature même de ma puissance pour qu'elle atteigne davantage sa fin. L'habitus vient au secours de la puissance pour que la puissance atteigne facilement sa fin. Dans les luttes, on risque toujours de perdre le sens de la finalité. Ça, c'est un fait. L'habitus nous empêche de perdre le sens de notre finalité. Parce qu'elle ramène la diversité à l'unité. Mais encore, vous voyez, si je suis attentif à ça, qu'est-ce que c'est que l'habitus? Il détermine en profondeur la puissance, en vue de sa finalité. Donc c'est une détermination vers le meilleur, une détermination qualitative. Puisque la qualité détermine, c'est donc une forme. Puisque le propre de la forme, c'est de déterminer. Donc, je dirais, au point de vue de l'être, la substance est source, la qualité est forme. Qui dit forme, dit une détermination secondaire, pas radicale, pas première. La qualité n'est pas source, bien que la qualité puisse être source. L'intelligence et source de mes diverses opérations est une qualité. Mais là, vous voyez, elle est source dans l'ordre vital. Elle est source dans l'ordre de mes opérations. Dans l'ordre de l'être, elle demande d'être déterminée par l'habitus. Et la qualité vient déterminer dans l'ordre de l'être la faculté. Ce n'est pas suffisant. C'est déjà très beau de voir ça. Et regardez, toutes les qualités, c'est toujours manifestation extérieure, manifestation intérieure. Vous pourriez diviser les qualités comme ça, ce qu'on a essayé de faire. Toutes les qualités qui manifestent à l'extérieur. Et toutes les qualités qui sont des déterminations internes, donc qualitatives. Les habitus. Les dispositions. Il peut y avoir des dispositions intérieures. J'ai la bosse mathématique. C'est une disposition intérieure, ça ne se voit pas. Regardez dans votre crâne, si vous voyez la bosse mathématique. C'est plus difficile à détecter. Tandis que je suis sanguin. Ah oui, on voit tout de suite. Vous êtes sanguin. Je suis colérique. À un point vraisemblable. Il suffit d'un rien pour que je me mette en colère. Ah oui, ça se voit ça. Être colérique, c'est une qualité. Quand on est trop colérique, c'est un défaut. Mais être colérique, c'est une qualité, ça veut dire avoir une sensibilité à certaines injustices. C'est comme ça que vous mettez en colère. Donc une sensibilité à certaines injustices, c'est l'irascible. L'irascible fait partie de nos qualités. Et le concupiscible aussi. Mais c'est quand la mesure est dépassée. Alors à ce moment-là, ça devient un défaut. La qualité a quelque chose de plus, elle ennoblit. La nobilitas, c'est toujours l'expression pour saint Thomas. On dit ça, c'est très moyenâgeux. C'est plus difficile dans un monde démocratique de discerner ce que c'est que la qualité. Parce que l'aspect démocratique nivelle. L'aspect démocratique nivelle n'aime pas tellement la qualité. C'est pour ça que la qualité dans un monde démocratique est très difficile à garder. Toute la tendance, c'est plutôt d'uniformiser. C'est la quantité qui l'emporte. Ça, je crois que c'est constant. La qualité ennoblit, et parce qu'elle ennoblit, elle m'oriente vers ma fin. La qualité a ce privilège de faire que je suis en présence d'une détermination qui n'est pas seulement par rapport à moi-même pour manifester la substance, mais c'est une détermination et un ennoblissement vers ma fin. Toutes les virtualités qui sont en moi sont resserrées en vue de la fin. Ça, c'est très grand, c'est très beau de voir ça. Et la qualité finalise. Et c'est vrai, un être qualitatif est toujours finalisé. Celui qui ne l'est pas, il perdra ses qualités naturelles, ses dispositions. Et ça se voit. Il y a des êtres qui avaient de merveilleuses dispositions naturelles, qui, perdant leur vraie finalité, se désagrègent. C'est une mort intérieure. Quand vous n'êtes plus finalisé, vous mourrez intérieurement. C'est votre âme qui meurt. Vous n'êtes plus capable d'aimer. D'aimer vraiment. Vous avez confondu la passion et l'amour véritable. L'amour véritable implique la fidélité. Et la passion implique le caprice. C'est toujours comme ça qu'on discerne les deux. Dès qu'il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus d'amour véritable. Il y a le caprice. On dit « Ah, j'aime tellement, mais que vous aimez, oui, très bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aimez aujourd'hui comme ça, demain vous aimerez comme ça, demain. Il n'y a plus de fidélité. Quand il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus de finalité. Et quand il n'y a plus de finalité, il y a désagrégation. Pendant un certain temps, exactement comme pour un cadavre, pendant un certain temps, la physionomie demeure. Mais au bout d'un an, deux ans, ça se désagrège. Et quelquefois beaucoup plus vite. Il y a un sida spirituel aujourd'hui. Une désagrégation extraordinairement rapide. Ça, tous les psychologues le reconnaissent. Une désagrégation extrêmement rapide. Vous voyez ça, les psychologues, là, peuvent très bien noter ces désagrégations. Parce qu'elles se font du côté du conditionnement. Donc elles se voient, se manifestent. Tandis que la qualité finalisée, le psychologue n'en saisit que les conséquences, l'ordre, l'harmonie. Mais il ne saisit pas ce qu'est la qualité. La qualité ne peut se comprendre que par rapport à l'être. Détermination, une forme qui détermine, une forme qui ennoblit, une forme qui oriente vers ce qui est ma fin. C'est ce que fait l'habitus. C'est pour ça que c'est la première des qualités. Elle ramène toutes les virtualités d'une puissance. Elle mobilise toutes les énergies d'une puissance en vue de ce qui finalise cette puissance. Qu'est-ce qui finalise mon intelligence? La vérité. Tous les habitus intellectuels rassemblent toutes les énergies, tout le potentiel de mon intelligence vers la recherche de la vérité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, celui qui lit 10 journaux en vue de connaître la vérité. Alors là, c'est intéressant pour lui d'avoir contact avec 10 journaux. Et s'il se contente de mélanger, alors à ce moment-là, il se perd dans la quantité, il se perd dans l'extension, il se perd dans l'efficacité. Il n'y a plus de finalité. Et l'habitus se perd quand il n'y a plus de finalité. Tous les habitus sont là au service de la nature pour la finaliser davantage. Alors l'habitus de sagesse, c'est net. L'habitus d'art, en vue de réaliser une œuvre. Un grand artiste ne perd pas de temps. Ordinairement même, il a les racines bien développées dans ce côté-là. Faites surtout pas patienter un artiste. comme un grand médecin, quitte à l'artiste. Un grand chirurgien. Parce que les chirurgiens sont des artistes très particuliers, ça se voit mieux. Ils taillent. Vous avez tous remarqué, moi c'est très curieux de voir combien un chirurgien est impatient. Combien un artiste est impatient. Parce qu'ils ont une œuvre à faire. Ils sont même visés pour ça. Même quelquefois trop, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. Mais c'est beau de voir comment l'habitus mobilise. Et c'est ça qui est intéressant. De voir comment cette détermination, qui n'est pas une détermination qui vient de l'extérieur, à la différence de la méthode, c'est une détermination qui vient de l'intérieur, qui naît et progresse de l'intérieur. L'habitus va creuser dans la puissance dans laquelle elle est reçue, dans laquelle elle est née. Va creuser une détermination toujours plus profonde pour que toutes les énergies de la puissance soient polarisées vers le bien, la fin de cette puissance. La fin de mon intellect artistique, c'est l'œuvre. Et l'artiste ne dormira pas tant que l'œuvre n'est pas faite. Ça qui est très curieux. Il passera des nuits, quelquefois. Il est porté par l'œuvre. C'est pour ça, ça c'est bon d'avoir ce sens artistique pour réaliser une dissertation. Vous voyez ? Si vous n'êtes pas du tout d'art, tiens, va comme je te pousse. Il faut faire 4 pages. Et vous regardez l'esprit quantitatif. Tandis que si vous avez l'habitus d'art, vous direz, il faut faire une petite œuvre qui manifeste le sujet donné. Et vous essaierez d'y réfléchir et de faire quelque chose dans ce sens-là. L'habitus de prudence ramène tout à l'action morale. Réfléchissez sur les habitudes, c'est très important pour voir ce passage de la forme, de la détermination à la finalité. Parce que ça, c'est très très propre à la qualité. Donc, vous voyez, je peux dire que la qualité manifeste, que la qualité détermine, que la qualité ennoblit, que la qualité, surtout les qualités spirituelles, mobilise toutes les forces que j'ai en vue d'atteindre mon bien, mon bonheur, ma finalité. Je crois que c'est ça que fait l'habitude, c'est ça que fait la qualité. Elle est donc une forme. La vraie forme, elle est qualitative. Elle n'est pas au niveau de la substance. La substance est source des formes. Alors la question très délicate, vous voyez, c'est la nature-forme. Point de vue philosophie de la nature. La nature-forme. La nature-forme est toujours liée aux propriétés. Et là, vous retrouvez la qualité liée à la nature-forme. Et c'est pour ça que la qualité, là aussi, est présente dans la nature-forme.